of a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'Amérique et vous en direct de Washington. Claire Morin-Gibourg avec vous pour animer ce débat. Aujourd'hui, nous allons évoquer le Black History Month aux États-Unis ou le, si on traduit évidemment, le mois de l'histoire noire ou de l'histoire des noirs. Tous les ans, au mois de février, pendant un mois, les écoles, les musées, les médias célèbrent les grandes personnalités noires américaines de l'histoire. De la guerre civile à la lutte des droits civiques, des grands sportifs aux musiciens de talent, ce mois est un hommage aux différentes influences de la communauté africaine-américaine au pays de l'Oncle Sam. Alors, ces célébrations sont-elles utiles ? Pour certains, cela perpétue un certain racisme, et on va essayer de comprendre pourquoi. Et pour d'autres, c'est au contraire une commémoration historique utile et importante. C'est le débat que nous vous proposons ce soir dans l'Amérique et vous. Vous pouvez bien entendu nous appeler en direct pour y participer. Je vous donne le numéro, c'est le 202-205-2633. Le 202-205-2633. Et nous vous rappellerons. Alors aujourd'hui en plateau, nous avons avec nous notre collègue et ami Henri Francis, que les auditeurs connaissent bien. Et Henri, vous vivez aux États-Unis depuis 40 ans. Alors bien entendu, vous avez le recul, bien entendu, pour nous parler de l'origine et de l'histoire de ce mois très particulier.
Eh bien, ça a commencé en 1915. Il y a le professeur Carter J. Woodson, avec quelques amis, qui ont eu l'idée de fonder une association pour l'étude de l'histoire des Noirs américains. Parce que ce professeur, qui était d'ailleurs diplômé de Harvard, trouvait que l'on ne parlait pas assez des contributions des Noirs américains à l'histoire des États-Unis. Donc, avec quelques amis, ils ont fondé cette association. Ils ont fait des recherches. Ils ont découvert que, bon, il y avait pas mal de contributions de Noirs américains qui avaient été parlementaires, chercheurs et toutes sortes d'autres occupations.
Alors, j'ai quelques exemples. Abraham Lincoln, le président responsable de l'abolition de l'esclavage en 1965. Il était donc du 12 février. George Washington, le défenseur de la liberté de la nouvelle nation américaine, du 22 février. Et bien sûr, Frédéric Douglass, l'ancien esclave devenu le brillant abolitionniste.
Et ambassadeur en Haïti en 1865.
Et ambassadeur à Haïti.
Il y a plus de 100 ans, à l'époque où Haïti était la seule république noire.
Oui, il ne connaissait pas sa date de naissance et il a choisi la Saint-Valentin le 14 février. Donc voilà. Tous les trois, disait Woodson, en 1942, furent les soldats de la liberté et pensaient que les Noirs devaient être libérés.
De toute façon, donc comme je le disais, en 1915, il y a eu la fondation de cette association et en 1926, Carter J. Woodson s'est adressé à un certain nombre d'universités et leur a proposé l'idée d'une semaine de l'histoire des Noirs. Donc ça a commencé en tant qu'une semaine de l'histoire des Noirs, c'était en février, qui était la date d'anniversaire de naissance, comme vous l'avez dit, de Lincoln et aussi de Frédéric Douglass. Donc, pas mal d'universités ont trouvé que c'était une bonne idée, donc ça a commencé comme une semaine. Et au fur et à mesure, au fil des décennies, les universités en ont fait un mois de l'histoire des Noirs.
Donc, alors, la date officielle où c'est devenu le mois, c'est 1976.
Exactement, c'est à cette date que le président Gerald Ford a officiellement désigné le mois de février comme le mois de l'histoire des Noirs américains. Et depuis cette date, chaque année, le chef de l'exécutif américain proclame officiellement le mois de février comme le mois de l'histoire des Noirs américains. Donc c'est une célébration qui date d'à peu près une quarantaine d'années. 1976-2018.
Et alors, cette manifestation suscite encore beaucoup de critiques, Henri, et c'est pour ça qu'on a eu envie de débattre autour de cette question. Certains affirment que cette institutionnalisation permet d'apaiser à moindre frais une partie des revendications politiques de la communauté noire américaine, et que cela ne change pas en profondeur le débat public et surtout la persistance des profondes inégalités et tensions raciales dans le pays. Alors, pour en parler, nous avons également avec nous Marilyn Suffolk, le docteur Suffolk, professeur à Howard University. Bonsoir, Madame Suffolk. Alors, malheureusement, nous ne l'avons pas encore. J'espère qu'on va pouvoir la joindre prochainement. A-t-on Rachel Descoste, auteur donc... Alors, on me dit que les professeurs ne sont pas, parce qu'on voulait continuer un petit peu sur ce débat, ne sont pas encore disponibles. Alors, peut-être nous pouvons, vous êtes nombreux à nous avoir laissé vos commentaires sur notre page Facebook. Alors, nous avons, je pense, un premier auditeur. Je ne sais pas de qui il s'agit. Alors, Alphonse Bouaki, Monsieur Bouaki, bonsoir. Vous nous entendez?
Bonsoir. Oui, je vous écoute. Bonsoir, mon cher ami journaliste.
Très bien. Alors, la ligne n'est pas très très bonne. Alphonse, dites-nous peut-être rapidement quel est votre... pour vous nous avez écrit sur Facebook, les suprémacistes blancs peuvent se saisir de cette histoire pour perpétuer des actions racistes. C'est un peu fort concernant le Black History Month.
C'est pas bon.
D'accord. Alors, Monsieur Bouaki, je suis vraiment désolée, la ligne n'est vraiment pas bonne. Donc, je vais lire votre message Facebook. Vous disiez donc la commémoration de ces événements jette les blancs non racistes dans un regret moral pour les abus des droits humains. Voilà, c'était votre avis. Alors, nous partons au Tchad. Je crois que nous avons Christian Djerabé. Bonsoir, Christian.
Oui, bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous pour vous, c'est important de célébrer la mémoire donc de Martin Luther King en particulier, bien sûr. Dites-nous pourquoi il est important, pourquoi ce mois de février est important.
J'ai besoin des
histoires. C'est un mois important pour Martin Luther King, parce que Martin Luther King est un homme qui a lutté contre la violence aux États-Unis. Et cette journée permettra maintenant aux jeunes qui n'ont pas connu Martin Luther King de savoir que Martin Luther King était un homme qui a lutté contre la non-violence aux États-Unis et un peu partout en Afrique. Donc c'est un modèle. J'apprécie vraiment cette journée de commémoration de Martin Luther King.
Pour vous, c'est vraiment très important pour les jeunes, hein, une importance historique.
Oui, c'est bien ça.
Très bien, très bien. Alors, je crois que nous a rejoint à l'antenne Rachel Descoste, qui est notamment une auteure qui a publié beaucoup d'articles sur les Noirs au Canada. Bonsoir, Madame Descoste.
Bonjour.
Bonjour, pardon. En fait, donc vous êtes au Canada et je vous dis bonjour. Moi, je vous dis bonsoir parce que mes auditeurs sont en Afrique et c'est le soir.
voilà. Et voilà, oui.
Donc, bonjour, bonsoir. Pour vous, on oublie souvent l'importance de l'histoire des Noirs. Alors, bien entendu, aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui connaissent l'importance, mais aussi au Canada.
Et voilà, ça fait 20 ans que la première femme noire élue députée ministre, Jean Augustine, a fait une déclaration au Parlement canadien pour déclarer le mois de février comme étant le mois de l'histoire des Noirs au Canada, d'un océan à l'autre. Et c'est vraiment depuis 20 ans qu'on prend le temps d'explorer l'apport des Noirs au Canada, que ce soit dans le temps de l'esclavage, quand le premier le premier navire qui est venu explorer au Canada, de Samuel de Champlain, avec lui, il avait un interprète qui était un Africain, qui s'appelait Mathieu d'Acosta, qui parlait plusieurs langues, et c'est lui qui a fait le premier contact avec les Amérindiens dans l'année 1604 environ.
Très bien. Alors, c'est vrai que cette importance du Black History Month, Henri, peut-être que vous pouvez aussi nous parler d'Haïti. J'ai appris qu'on fête le Black History Month en Haïti également.
Oui, bon, je pourrais dire que le Black History Month en Haïti, c'est pratiquement toute l'année. Mais bon, non, les Haïtiens connaissent l'histoire des Noirs américains parce que beaucoup vivent aux États-Unis et on a entendu parler de cette célébration qui est en février. Mais spécifiquement en Haïti, il n'y a pas un mois de l'histoire des Noirs parce que les Noirs sont partout présents.
Ils le célèbrent en tout cas.
Si, c'est-à-dire que oui, surtout ceux qui ont vécu aux États-Unis en février, bon, il y a pas mal de programmes, des émissions spéciales sur les contributions des Noirs à l'histoire universelle.
Alors, j'ai également le docteur Céphocle. Je crois que enfin nous avons pu la joindre, professeur à Howard University. Voilà, je vous entends. Docteur Céphocle, bonsoir et merci beaucoup de nous rejoindre à l'antenne. Ce Black History Month, j'imagine qu'il est bien entendu célébré l'université noire américaine par excellence, la Howard University. Peut-être pour nos auditeurs qui ne connaissent pas cette université, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots son histoire ?
Oui, alors c'est une université, Howard University est une université qui a été créée en 1867 à l'origine pour les Noirs affranchis. Il y a en tout, sur les 3000 universités qui existent aux États-Unis, il y a en tout 105 universités qui sont des universités historiquement noires, c'est-à-dire qui ont été créées après l'abolition de l'esclavage pour justement essayer d'insuffler dans la communauté noire non seulement un engouement pour les études, mais aussi pour créer une classe moyenne noire américaine.
Et alors, est-ce que l'université fête le Black History Month ? Et qu'est-ce que vous faites,
absolument,
par exemple ?
Absolument. Donc, tous les départements ont un programme dans le cadre de la Black History Month. Par exemple, dans le cadre de notre département, qui est le département des langues étrangères, nous célébrons à notre manière le Black History Month en mettant en exergue les langues africaines, par exemple.
Ah, très bien. Alors, je m'adresse à toutes les deux mesdames, donc Rachel ou Marilyn. Cette manifestation suscite aussi beaucoup de critiques, même si on a bien compris l'importance historique. Certains, comme je le disais plus tôt, affirment que son institutionnalisation permet d'apaiser à moindre frais des revendications politiques de la communauté noire américaine. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Céphocle?
Alors, je pense qu'il fallait commencer par quelque chose parce que finalement, en fin de compte, il n'y a pas énormément d'enseignement de l'histoire des Noirs américains, de la contribution des Noirs américains dans les écoles américaines. En tout cas, pas assez. Et ou alors, c'est très varié, ça dépend de l'université, ça dépend de l'école. Et même ceux qui célèbrent la Black History Month, en général, mettent l'accent surtout sur Martin Luther King et sur le speech « I have a dream ». Alors qu'il y a énormément d'autres Noirs américains qui méritent également d'être célébrés. On parle par exemple de Charles Drew qui a créé donc tout ce système de préservation du plasma sanguin pour sauver des vies. Et donc quand on parle de Charles Drew, on parle pas seulement de la communauté noire, mais on parle de Noirs qui a eu un impact sur le monde entier, qui a sauvé des vies dans le monde entier grâce à à la découverte de l'utilisation du plasma sanguin. On parle aussi par exemple de Philip Downing qui a obtenu plusieurs brevets, dont le brevet pour les mailbox. On parle aussi de Madame Alice Parker, qui a créé tout un système de chauffage des maisons. Si les maisons sont aussi bien chauffées aujourd'hui aux États-Unis et dans le monde entier, c'est grâce quand même à son brevet. Donc il y a énormément de personnalités, les anciennes d'ailleurs de Howard University, il y a énormément de personnalités qui ont amener leurs pièces à l'édifice, leurs pierres à l'édifice, mais pas seulement à l'édifice américain, à l'édifice à l'échelle mondiale.
Et alors, que répondez-vous, et c'est une question également pour Rachel, que cette manifestation ne change pas en profondeur la persistance des profondes inégalités ou des tensions raciales dans le pays?
Elle quand même contribue à éveiller les consciences.
D'accord. Excusez-moi. Madame Descosses, dites-nous.
Les tensions raciales, les inégalités raciales datent de 500 ans en Amérique. Et le mois de l'histoire des Noirs a peut-être 50 ans et ce n'est même pas célébré à l'échelle nationale. Donc, ça va prendre plus qu'un mois pour réparer les pots cassés. Ceci étant dit, il y a tellement de belles histoires qui n'ont pas encore été racontées. Au-delà de Martin Luther King, on passe même au film qui a été primé l'année dernière, Hidden Figures, qui parle des femmes noires qui ont aidé à lancer la première fusée spatiale aux États-Unis, Katherine Johnson, une femme noire américaine qui était un véritable ordinateur humain. Il y a tellement d'histoires comme ça qui n'ont pas encore été racontées à l'échelle nationale. Et qu'est-ce qu'on voit à chaque année, c'est que on redécouvre ces gens-là, on reparle de leur histoire et ça vient chercher toute une audience qui est contente d'apprendre de la grande histoire des Noirs au Canada, quelle que soit la race du spectateur.
Est-ce que pour vous, Henri, vous avez aussi cette... Le débat est là, en tout cas. Le débat existe.
Ce qui est certain, c'est que le mois des Noirs est utile parce que souvent, les gens pensent que les contributions des Noirs ont commencé assez récemment parce qu'ils étaient tellement opprimés qu'ils n'avaient pas les moyens de contribuer. Par exemple, vous avez avec vous une professeure de l'université Howard. Eh bien, très peu de gens savent que John Mercer Langston a été doyen de l'université d'Howard dans les années 1870. Il a été nommé doyen en 1872. Et il a aidé à développer cette université parce que souvent les gens pensent à Howard qui est un blanc qui a créé l'université, mais en fait le premier doyen de l'université a été un noir, John Mercer Langston, lequel a été ensuite ambassadeur à l'étranger. Donc il y a une contribution des noirs qui date de très longtemps, qui a commencé dès le 19e siècle. Et beaucoup de gens pensent que c'est après le mouvement des droits civiques que les Noirs ont commencé à contribuer de façon substantielle. C'est absolument faux aux États-Unis, puisque vous avez des contributions de Noirs depuis pratiquement la création de l'État américain. Et c'est ça l'importance du mois des Noirs, c'est de faire comprendre à la majorité qui n'est pas noire que la contribution de compatriotes noirs n'est pas fait récent. Il date pratiquement de la création du pays.
Depuis la création. Alors nous avons beaucoup, beaucoup d'appels, beaucoup d'auditeurs. Je crois que nous avons M. Tierno de la Guinée. Allô?
Allô, oui, bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à l'ensemble de vos auditeurs et tous vos invités qui sont en ligne.
Alors, je vous écoute. Vous nous avez contactés par Facebook.
Oui, tout à fait. Je disais, je suis très, très, très fier de ces grandes célébrités qui ont marqué l'histoire des États-Unis d'Amérique. Non, je ne vois pas normal de célébrer quelqu'un à cause de sa couleur, parce que c'est quelque chose qui encourage la discrimination raciale des Noirs. Je vois ça comme si on a voulu institutionnaliser, comment dirais-je, le racisme, parce que selon ce que je sais, ça n'existe pas ailleurs, là où on célèbre les autres races.
Merci beaucoup, Monsieur Tierno. Je vais me tourner vers le docteur Sefocle. Alors, est-ce qu'il faut célébrer en fonction de la couleur de peau? Je trouve que la question est intéressante.
Oui, c'est une question tout à fait pertinente. C'est une question qui a son sens. C'est-à-dire qu'en principe, par exemple, quelqu'un comme Charles Drew, alors quelqu'un comme Alice Parker, on devrait les célébrer toute l'année. Mais étant donné qu'on ne les célèbre pas, donc il faut quand même commencer par quelque chose, et c'est dans ce sens-là que quelqu'un comme Carter G. Woodson, un noir lui-même, avait pensé à institutionnaliser ce type d'événement durant la durée d'un mois. Mais il y a beaucoup de personnes qui font la même réflexion que
cette que personne Monsieur Thierno.
En disant que, en fait, ce serait toute l'année qu'il faudrait célébrer les accomplissements des Noirs.
Tout à fait. Alors, Christian Djerabé, mais nous lui avons... Voilà, excusez-nous, nous avons un petit problème en régie. Alors, Archiduc Théodore de Djamena nous a aussi appelé. Allô, Archiduc, est-ce que vous nous entendez? Alors, dites-nous pourquoi pour vous ce... Bonsoir. Pourquoi ce mois est important? Pourquoi ce mois est-il important pour vous?
Oui, pour moi, cette célébration de ce mois est une reconnaissance d'un combat lourdement gagné par les Noirs américains. D'autant plus que l'histoire nous a montré que les Noirs aux États-Unis viennent de loin. C'était d'abord la ségrégation et la victoire était venue sur cette ségrégation-là. Donc leur intégration dans la population américaine est un combat venant de l'histoire. C'est juste une commémoration et ce mois leur donnera la force et un rappel à Ku Klux Klan, à Martin Luther King et d'autres ténors de la lutte américaine noire.
Merci beaucoup de votre appel, Archiduc. Donc vous, c'est vraiment la commémoration noire américain vu leur combat historique qui est important pour vous. Nous avons également un appel du Mali. Allô, allô? Oui, Monsieur Doumbia, dites-nous pourquoi vous nous appelez. On est presque en fin d'émission. Dites-nous vite.
Effectivement, je vois que vous êtes en fin d'émission. Je pense que cette journée doit être pérennisée et je pense que c'est du fait du combat mené par les Noirs sur le sol américain. Surtout, on a vu aussi Barack Obama qui fut président. Cela veut dire que les Noirs sont beaucoup attachés à ce continent américain. Je pense qu'il faut quand même valoriser et célébrer et mettre et donner plus de droits encore aux Noirs puisqu'on constate toujours le Ku Klux Klan et d'autres organismes qui menacent un peu l'existence de ces Noirs sur le continent américain de mon point de vue.
Alors pour vous, c'est aussi la persistance du racisme, bien entendu. Docteur Sefocle, Monsieur Doumbia a évoqué évidemment le premier président noir élu, Barack Obama. Est-ce que aujourd'hui, après ces 8 ans, est-ce que il n'y a pas un petit sentiment d'inachevé? Est-ce qu'il aurait dû peut-être essayer de transformer plus le pays en matière?
On n'arrive pas du tout à résoudre tous les problèmes durant seulement une seule présidence durant 8 ans. Ça, c'est vraiment impossible. Toutefois, le président Obama a accompli les choses suivantes quant à la communauté noire en général, et ça nous donne beaucoup de fierté dans la communauté noire. Il a d'abord institutionnalisé la rencontre entre les chefs d'État africains et la présidence américaine. Ça n'avait pas du tout été fait avant lui. Il a aussi institutionnalisé un système qui s'appelle Our Brothers Keepers, qui est un système, un organisme tend à non seulement à comprendre, mais à résoudre les problèmes, surtout parmi la jeune génération de Noirs américains. Et troisièmement, il a aussi mise en place YALI, qui est Young African Leaders International, qui est tout un réseau de jeunes Africains qui viennent aux États-Unis pour faire des échanges entre les Américains et les jeunes générations de leaders africains. Et ces jeunes leaders ne sont pas nécessairement des politiciens, ils peuvent être des leaders dans le monde,
tout à fait.
Plusieurs domaines.
Tout à fait. Docteur Descostes, peut-être le mot de la fin, Rachel Descostes, excusez-moi, est-ce que pour vous, le président Obama aurait dû un peu plus imprimer sa marque?
Obama a transigé dans un environnement où tous ses partis étaient contre lui.
Et comme sa vie et comme la vie de plusieurs Afro-Américains, il a réussi à contre-courant. Il a réussi par son excellence. Il est au temple de la renommée des...
Oui, tout à fait. C'était l'homme du compromis. Hein. Merci, merci Rachel Descosses. Merci Docteur Sefocle. Merci évidemment Henri Franciste. C'était l'Amérique et vous, présenté par Claire Morin-Gibourg. Tout de suite, un nouveau point sur l'information.